Eh bien, mesdames, messieurs, bonjour. Donc, comme tous les mois de septembre, nous faisons une séance de présentation des ateliers. Donc, le rituel et la liturgie sont immuables, presque. Donc, j'assure la séquence des ateliers, qui ne seront pas tout à fait dans l'ordre de ce que j'ai prévu ici dans ma présentation, parce que tel ou tel a des contraintes d'horaire. Enfin bon, je vais organiser tout ça. Et donc, chaque animateur vient ici et parle dans le micro de salle et fait son petit laïus. Et si vous souhaitez en direct lui poser quelques questions, eh bien vous l'interrompez, vous lui dites « je voudrais telle ou telle précision sur telle ou telle chose ». Bon, on y va. Bon, je n'ai pas oublié de vérifier que tout marche bien. Mais... Bien, alors, je rappelle pour ceux qui ne sont pas des habitués de l'UTB, est-ce qu'il y a des personnes qui sont dans la salle qui ne sont pas encore adhérentes? Non, toutes, oui, une, bon. Donc, tout ce qu'on appelle atelier, groupe de travail et autres aspects sont les appels d'une façon générique, activités complémentaires. Pourquoi ? Parce qu'il y a une dizaine d'années, il y avait très peu d'ateliers, tout simplement parce qu'il n'y avait pas de demande particulière. Et en fait, vous savez que notre activité principale, c'est d'organiser des conférences culturelles, et c'est des adhérents, ici ou là, qui nous ont demandé de faire qui des cours de langue, qui des ateliers divers et variés, et au fur et à mesure que les demandes sont venues, à la condition qu'on trouve des adhérents qui veuillent bien animer les différents groupes, eh bien, on a mis ça en place. Il faut dire que cette année, enfin, depuis 2 ans, comme nous sommes rue Saint-Georges, on a un avantage qu'on n'avait pas vraiment perçu quand on a déménagé, c'est qu'on dispose de 2 grandes salles de réunion qui permettent d'assurer, disons, une part significative de nos ateliers dans nos propres locaux. Et donc, on est beaucoup plus à l'aise au niveau de l'organisation du calendrier que on pouvait l'être avant, tout simplement parce qu'on est obligé de demander à l'avancement des disponibilités de salles dans d'autres salles, disons, de qui des lycées, qui des salles municipales. Alors, ces activités complémentaires sont de 2 types, soit des activités gratuites, c'est-à-dire il n'y a pas d'intervenant extérieur, ce sont des adhérents qui animent les ateliers, et donc, voilà. Et s'il y a un intervenant extérieur qu'on rémunère, eh bien évidemment, on demande une cotisation supplémentaire pour le payer, bien sûr. Donc, on balaye très rapidement la liste des ateliers qui sont, bien sûr, dans le catalogue, dans la plaquette annuelle. Vous avez vu que cette année, nous avons changé un petit peu la structure de cette plaquette. Et en particulier, elle est toute en couleur et on a un fond. Alors, je me souviens plus de la couleur. Je n'ai pas de plaquette là sous la main. C'est à la fin de la plaquette, c'est quelle couleur? C'est orange? Oui, enfin, bon. Et donc, tout ce qui est activité complémentaire, c'est à la fin de la plaquette. Bon, on ne va pas polémiquer sur le nom de la couleur. Voilà, je ne les lis pas, vous les voyez aussi bien que moi sur le tableau. Et c'est bien connu, elles sont décrites d'une façon plus détaillée dans la plaquette et je vais y venir une à une. Alors, avançons. Alors, historiquement, les ateliers les plus anciens qui datent de la fondation de l'UTB, ce sont le groupe lecture et le groupe littérature qui sont toujours existants et qui sont animés qui par Madame Coffin, qui par Madame Pio. Madame Pio n'est pas disponible, je crois, mais il y a quelqu'un du groupe qui va la représenter, non? Oui, voilà. Il y a quelques absents, donc je pallierai les absences des uns ou des autres. Voilà. Ah, on va commencer par l'histoire de l'art. Grande activité d'atelier et Mathieu Pinette, malheureusement, n'est pas disponible aujourd'hui, donc je m'appelle Mathieu Pinette. Et donc, je vais vous décrire d'une façon un petit peu plus détaillée que sur cette planche les trois thèmes qui l'a proposé. Alors, cette année, comme c'est un atelier qui marche très bien et qu'il y a de l'interactivité avec les adhérents, enfin les participants, de plus en plus, il demande aux participants qu'est-ce qu'ils souhaiteraient, quels sont les thèmes qu'ils souhaiteraient aborder l'année suivante. Et donc, ce qui est sorti de cette concertation, c'est les trois thèmes suivants. Peindre en Italie au XVe et XVIe siècle. C'est pas tout à fait par hasard qu'il a choisi ce sujet, puisque vous savez que dans le programme de conférence, nous avons tout un cycle sur la Renaissance italienne. Évidemment, c'est un miroir de ce qui sera exposé dans le programme de conférence. Un thème qui le concerne particulièrement, Mathieu Pinette, conserver et restaurer le patrimoine, technique, c'est déontologie. Alors, il y a une déontologie de la restauration. Et contrairement à ce que je croyais jusqu'à une période très récente, puisque ça date du début septembre, elle est unanimement partagée par l'ensemble des gens qui s'occupent de ça. Eh bien, c'est pas vrai du tout, parce qu'en Allemagne, la déontologie du conservation du patrimoine, c'est ce que j'ai découvert dans notre voyage en Allemagne, est complètement différente de celle de la France. Et donc, on a rencontré un guide à Cologne, qui nous a fait la visite de Cologne, qui nous a dit, non, c'est, en Allemagne, ça se passe pas comme ça, donc c'est pas l'objet de l'exposé, là. Et on a convenu qu'il viendrait et qu'il discuterait avec Mathieu Pinette, et une chose intéressante. Et troisième thème, c'est les arts d'ailleurs. Vous savez que l'histoire de l'art en Europe, elle est très européano-centrée. Et on considère que tout ce qui s'est fait en Europe, on considérait tout ce qui s'était fait en Europe était vraiment le centre du monde. Bon, cette chose a un petit peu changé. Et donc... maintenant, on a quand même des musées comme les Arts Premiers à Paris, Branly, etc. Donc, on regarde un petit peu ailleurs ce qui s'est fait et qui a tout à fait de la valeur. Donc, ce sera le troisième thème qui est proposé. Ensuite, généalogie. Donc, puis après, je te fais passer. Généalogie, donc Jean-Paul, tu viens exposer ton atelier.
Oui, bonjour. Je ne suis pas sûr d'avoir besoin d'un micro, mais bon. Si. Alors, l'atelier de généalogie a eu lieu il y a deux ans, 2017. En 2019, je le refais. Donc, ceux qui l'ont fait en 2017, il ne faut pas redoubler. Ça sera la même chose. Et puis, j'ai un certain nombre de choses à vous dire, j'ai noté pour ne pas oublier. C'est un atelier qui est proposé à des débutants. Si vous faites de la généalogie depuis 15 ans et vous remontez vos ancêtres au XVIIe siècle, ce n'est pas la peine de venir, vous n'allez rien apprendre. Je ne vais pas taper très haut. Je vais m'intéresser à des débutants qui veulent apprendre comment on commence la généalogie, par où commencer, comment procéder, quelles sont les bonnes méthodes. Est-ce qu'il faut faire des petites fiches individuelles? Est-ce qu'il vaut mieux travailler sur ordinateur directement, etc. Et puis, ça sera illustré d'exemples concrets. Cet atelier aura lieu salle 308 à Janzay. Pour une raison très simple, c'est que je suis ici le représentant du cercle généalogique de Châlons, et c'est la salle que nous occupons toutes les semaines, le lundi. Le cercle généalogique de Châlons existe depuis une quarantaine d'années maintenant, et nous avons une permanence tous les lundis après-midi à Janzay. Vous pouvez venir quand vous voulez. On ne vous demandera rien. On vous demandera ce que vous souhaitez. C'est tout. Mais on ne vous fera rien payer, en tout cas au début. Et alors, il se trouve que c'est la salle dans laquelle j'ai tout notre matériel. Donc, je peux facilement ouvrir les armoires et vous montrer ce qu'on peut proposer aux gens que la généalogie intéresse. L'autre avantage de Janzay, c'est qu'il y a un immense parking derrière le bâtiment du collège. Il y a environ 120 places de stationnement. C'est quand même confortable. Il ne faut jamais se garer devant. Il ne faut jamais se garer entre les immeubles et le collège. Il faut toujours se garer derrière le collège. Parce que devant les immeubles, les habitants considèrent que c'est leur parking. Voilà. Ça sera le vendredi matin de 10h à 11h30. J'ai choisi cet horaire-là parce que 10h, c'est pas trop tôt pour les gens qui viennent d'un petit peu plus loin que la proche banlieue de Châlons. Et puis 11h30, ça vous laisse le temps de rentrer chez vous pour déjeuner. Puis une heure et demie, au bout d'une heure et demie, vous en aurez assez, je pense. Hein. Vous serez content de repartir. On commence le vendredi 11 janvier. Il y aura normalement une douzaine de séances. Et donc j'ai prévu de finir le 12 avril. Ce sont toujours des vendredis matins. Alors j'ai appris depuis que j'ai fixé ces horaires avec Muriel que je serai pris certains vendredis matins à partir de 19 octobre. Donc ça va aller aussi pendant l'hiver. Parce que non content d'animer des stages pour les débutants, je continue à me perfectionner et je vais suivre un stage de paléographie aux archives municipales à Châtenois. Et c'est aussi le vendredi matin, ça tombe mal. Donc ça va certainement décaler un petit peu. Cet atelier est gratuit en ce qui me concerne, mais pas en ce qui concerne les photocopies. Je vais distribuer aux participants un nombre relativement important de photocopies qui seront payées par le Cercle Généalogique de Châlons. Donc, on vous demandera une somme de 20 euros pour la totalité du stage. Hein. Il y a deux ans, quelqu'un voulait me donner un billet de 20 euros tous les vendredis. Je dis non, c'est la première fois seulement. Après, c'est fini. C'est pour tout le stage. Ça permettra de couvrir les frais de photocopie du Cercle Généalogique. Si vous avez des questions, si vous pensez à des choses à me demander, je reste jusqu'à la fin de la présentation et je serai ravi de vous en parler à la fin.
Merci. Alors, je vais changer l'ordre des présentations puisque Monique Samé a une contrainte de... Voilà. Donc, Monique, je t'en prie, fais ton exposé. Groupe Éthique et Société.
Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Alors, le groupe Éthique et Société traite deux problèmes de société. Il existe depuis 10 ans. Dans ce groupe, tout se décide en collégialité et tout est démocratique. La convivialité est de mise, tout comme la courtoisie. Chacun est invité à exprimer ses opinions et à les confronter aux autres. C'est un débat dans un but commun, la recherche d'une certaine connaissance sur le thème annuel choisi par le groupe à la majorité. Alors, qu'est-ce qu'il est souhaitable pour être dans ce groupe? Il est souhaitable déjà d'utiliser Internet, puisque toutes les informations circulent par Internet, comme les articles de journaux, les propositions de livres qu'on se transmet, on communique beaucoup les uns aux autres. Chacun, il est souhaitable de faire un exposé par an, soit l'exposé d'une... jusqu'à présent, on faisait l'exposé d'un livre, mais ça paraît un peu lourd pour certains. Donc maintenant, cette année, il a été voté à la majorité que chacun pouvait faire l'exposé de certains chapitres d'un livre ou l'exposé sur des articles de journaux. Et on n'en fera qu'un à chaque séance alors que nous en faisons deux pour favoriser donc le débat. La date de l'exposé est décidée par la personne qui le fait, par la personne qui participe au groupe. Un plan de travail est établi à peu près vers le mois d'avril-mai afin qu'on décide en commun et en collégialité, toujours pareil, du thème de l'année sur lequel nous allons travailler. Chacun envoie les thèmes qu'il aimerait voir développés dans l'année et ensemble, on vote sur le thème préféré. Et donc, c'est la majorité qui remporte. Alors, ce travail est fait pour les autres. Le résultat espéré est d'engendrer de la pensée afin d'animer le débat. Les plus, les moins, les pour, les contre, Dans ce groupe, il y a toutes sortes d'opinions, les croyants, les incroyants, les gens qui sont à droite, ceux qui sont à gauche, et ça marche très bien. Chacun se respecte, entend les idées de l'autre, qui font évoluer les siennes, et depuis 10 ans, tout s'est très bien passé. Alors, le thème de cette année 2018-2019, qui a été donc décidé à la majorité, c'est la bioéthique. Donc c'est un thème très à la mode, mais aussi très vaste. Le groupe est bien sûr gratuit. Vous devez être inscrit à l'UTB, comme à chaque fois que vous faites partie d'un groupe atelier. À ce moment-là, si vous êtes intéressé à venir dans le groupe, le fonctionnement du groupe vous sera adressé. Et après la connaissance de ce fonctionnement, vous déciderez si vous restez ou pas avec nous dans le groupe. Vous pouvez aller dès maintenant sur le site de l'UTB en cliquant sur les ateliers et ensuite éthique et société. Vous y trouverez tous les exposés des années précédentes et tous les thèmes qui ont été traités dans les années précédentes. Le groupe éthique et société se réunit une fois par mois, le lundi de 16h30 à 18h30 au 30 rue Saint-Georges, au siège de l'UTB. Oui, alors, il y a un plan de travail sur lequel sont décidées toutes les dates qui sont décidées aussi en commun dans le groupe. C'est à peu près, oui, une fois par mois, selon les dates, selon les disponibilités aussi de chacun, les vacances, etc. La réunion de rentrée sera le lundi 15 octobre. Voilà. Alors, venez nous rejoindre, nous en serons ravis. Nous avons commencé à 6, nous sommes maintenant 17 ou 18, il faudrait que je recompte, quelque chose comme ça. Bienvenue à vous.
Bon, merci Monique. Donc j'en profite, on me rappelle de dire que nous avons changé le mode d'inscription aux ateliers pour essayer de l'uniformiser. Donc nous avons conçu un formulaire, une fiche d'inscription un petit peu standard, si vous voulez, avec le nom du l'intitulé de l'atelier qui est vierge, et chacun remplit la feuille, et donc ça donne un support, si vous voulez, papier au secrétariat qui permet de mémoriser les inscriptions. Alors si vous souhaitez vous inscrire à des ateliers et que vous n'avez pas eu le temps encore de le faire, on a quelques exemples de ce formulaire à l'entrée. Vous pouvez en prendre un et puis le remplir et le rendre tout de suite, si vous voulez. Alors, j'insiste un petit peu là-dessus, en particulier les ateliers gratuits, faites l'effort de vous inscrire de telle manière qu'on sache bien qui fait quoi. Donc c'est au premier degré un problème d'organisation administrative, mais au deuxième degré c'est également un problème, si vous voulez, de responsabilité civile, puisque nous, vous savez que comme toute association, nous avons une assurance responsabilité civile, et s'il y a un problème de quelque nature qu'il soit qui se passe, l'assureur est en droit de nous demander des listings à jour des inscrits de l'année dans l'atelier correspondant. Et si on les a pas parce qu'on était habitué à être inscrit depuis la nuit des temps à cet atelier, c'est quand même un petit peu gênant. Donc voilà. Merci de faire l'effort de vous inscrire, même pour les ateliers gratuits. Donc je reviens dans la continuité de... Voilà. Atelier d'écriture. Oui, c'est ça. Donc, Marie-Annick, merci. Donc, Marie-Annick Farjex qui anime. Oui. Oui, oui. Oui, oui. D'accord. Donc, qui anime cet atelier depuis quelques années, donc, va vous expliquer en quoi ça consiste.
Oui, bonjour à tous. Donc, effectivement, ça fait plusieurs années. Cet atelier est bien entendu ouvert à tous et il se réunit une fois par mois approximativement. Alors, ça concerne qui ? Ben, les gens qui ont envie d'écrire. Ça ne nécessite pas d'avoir déjà publié une œuvre auparavant ou même d'écrire. Il suffit d'avoir envie de s'exprimer par le biais de ce moyen d'expression qui est l'écriture. Alors, c'est vrai qu'on a plutôt tendance à privilégier la forme de la fiction, de la nouvelle ou du roman. Et du reste, certains membres de l'atelier ont déjà publié au sein de l'UTB sous format papier. C'est pas quelque chose d'obligatoire. Nous essayons de nous poser certaines questions sur comment est-ce qu'on peut améliorer sa façon d'exprimer les choses en scrutant un petit peu des textes littéraires publiés, classiques ou moins classiques. En général, les participants écrivent chez eux et quand on se retrouve, le centre de la réunion, c'est d'échanger autour des derniers textes qui ont été rédigés par les participants. Donc, l'intérêt de l'atelier, c'est justement d'avoir le regard des autres qui sont vos premiers lecteurs et qui essayent de vous aider à avancer aussi, par exemple. Voilà, donc j'ajoute pour finir que les nouvelles que nous avons écrites, qui ont été écrites le plus récemment, ont commencé à apparaître sous format informatique sur le site de l'UTB. Nous avons déjà un premier épisode publié et grâce à la diligence de Monsieur Fournier, bientôt le deuxième épisode du Gars de la Gare devrait être mis en ligne dans les jours qui viennent. Donc vous pourrez un petit peu voir ce que...
Je vais m'en occuper.
On ne fonctionne pas en groupe très nombreux, on ne peut pas parce que ça devient trop compliqué, mais une dizaine de personnes, c'est vraiment
le format intéressant. On peut accepter quelques personnes supplémentaires.
Nous avons encore quelques places et vous êtes les bienvenus. Si vous avez envie de voir comment ça fonctionne, il y a une séance d'essai possible, bien entendu.
Voilà, merci Marie-Annick. Donc, je vais encore bouleverser la chronologie des passages, puisque, voilà. Voilà. Alors, j'accueille Madame Chiara Arcadi. Non, c'est pas vous. Excusez-moi. Oui, venez. L'anglais. Excusez-moi.
Buonasera. Sono Chiara Arcadi.
Ah, d'accord.
Vivo a Chalon da un anno, quasi un anno. Vous avez compris? Oh, voilà. Donc, je suis un petit peu émotionnée et je m'excuse si je vais faire des fautes de grammaire parce que j'apprends le français quand même, toujours. Je ferai, merci, encore pour débutants. Vous allez apprendre les bases de la grammaire italienne. Mais aussi la culture. C'est plutôt un échange entre les deux langues. Moi, j'aime bien faire mes leçons en écoutant des dialogues ou la musique ou des films. Et on peut apprendre de façon ludique. C'est pas un cours très didactique, comme si on était à l'école. Voilà. J'espère que vous veniez.
Donc, merci. Alors, donc, c'est l'occasion, parce que je vais tout de suite donner la parole à Madame Godichon, c'est dans la continuité. Okay. Donc, je rappelle donc une nouveauté qu'on essaye de généraliser cette année, c'est de faire un atelier découverte de 4 ou 5 séances, de telle manière que les personnes qui veulent découvrir une langue ou qui ont peur de se lancer dans une nouvelle langue qu'ils n'ont jamais pratiquée, qu'ils puissent, si vous voulez, se familiariser avec cette langue en disant, ben oui, d'une part, je vais y arriver et ça m'intéresse, et deuxièmement, je suis motivé, au sens de dire j'ai envie. Hein, parce que effectivement, investir dans un cours complet sur l'année et en disant au bout de 3 séances, eh bien finalement j'y arrive pas parce que j'ai pas le niveau, ou finalement je suis perdu et je suis timide vis-à-vis des personnes qui sont déjà bien plus à l'aise que moi dans la langue. Donc on va essayer de faire ça, puisque l'expérience a montré que les gens qui sont habitués aux ateliers de langue chez nous, eh bien, montent en niveau, et ensuite les nouveaux entrants sont incapables de raccrocher les wagons, et c'est la difficulté. Donc c'est pour ça que l'on a testé cette méthode-là, et on va le faire dans toutes les langues, même si le nombre d'inscrits est faible de telle manière. Alors ensuite, il y a 2 solutions, soit la progression est rapide et avec concertation avec l'autre professeur, eh bien on dit on peut passer dans un groupe de force supérieure, soit on se sent pas encore à l'aise et donc on continue avec le groupe dit débutant ou grand débutant, de telle manière à ne pas perdre pied, si vous voulez. Voilà. Alors, Madame Godichon a un succès extraordinaire, et donc, comme elle fait déjà 3 groupes, elle a dit un 4e, je vais pas y arriver. Donc, on a trouvé une jeune dame qui a accepté de faire ce niveau d'initiation, et donc on la remercie. Donc, Madame Godichon, s'il vous plaît, merci de compléter. Voilà. Donc c'est l'occasion de faire connaissance, puisqu'elle ne s'était pas rencontrée encore. Voilà. Donc elles vont continuer en italien, vous avez compris, là maintenant n'existe plus.
Voilà. Bonjour à tous. Donc, comme l'a dit Monsieur Fournier, l'an dernier, nous avons fait un cours, comme le fera Chiara, à l'essai, de 3 ou 4 séances d'une heure et demie. Et à la suite de cela, les personnes ont été motivées pour continuer et ce cours a avancé le long de l'année. Mais il était difficile d'intégrer d'autres grands débutants à ce cours parce qu'on a progressé. Donc c'est tout à fait justifié d'essayer d'inciter d'autres personnes à pratiquer l'italien, cette langue magnifique que j'ai beaucoup de plaisir à enseigner. Nous avons ouvert le premier cours d'italien il y a 10 ans. J'ai toujours des personnes qui continuent cet atelier, qui maintenant se débrouillent assez bien, voire même très bien. Nous faisons ce cours le mardi après-midi. Excusez-moi, je parle trop avec les mains. C'est le défaut des Italiens. C'est le mardi après-midi, on traite tout ce qui est culture générale italienne, civilisation. On a beaucoup d'échanges. Les gens maintenant sont amenés à présenter des thèmes en italien à leurs camarades, si on peut dire. Et bien sûr, il y a toujours et toujours des révisions de grammaire, parce que l'italien est une langue très belle, que l'on croit facile, mais qui est difficile à cause de sa grammaire. À côté de cela, il y a donc ce cours qui était débutant l'an passé, qui est le jeudi en début d'après-midi, et il y a encore un autre cours qu'on a appelé, parce qu'on était à cours d'appellation débutant 2, qui a commencé il y a 2 ans et qui, là, commence de pouvoir s'exprimer pour les besoins de la conversation du quotidien. Voilà, il y a encore de la place. Si des personnes sont intéressées par ces ateliers, je suis à leur disposition pour donner de plus amples informations. Et je vous remercie.
Merci. Donc, on enchaîne évidemment pas par une langue, par un autre atelier. Donc, la cave Rob Grenat à Givry, qui propose donc un atelier d'œnologie, va vous expliquer ce que l'on propose cette année. De la même manière que l'histoire de l'art, là, le programme a été fait vraiment d'une manière interactive entre les participants de l'année dernière et le monsieur Stroel. Voilà, je vous laisse la parole.
Voilà, donc bonjour à tous. Donc ça fait bien la deuxième année que je viens vous voir. On a toujours plaisir à venir ici. Moi, c'est Stéphanie. Donc c'est monsieur Stroel qui officie hein, pour les dégustations. Alors cette année, comme l'année dernière, on organise 4 ou 5 sessions hein, en fonction du nombre d'inscrits et du budget disponible hein, sur les vignobles et les caractéristiques de ces vignobles. Donc ce sont des sessions de 2 heures, de 10 heures à midi le jeudi. Donc la première session commencera le 22 novembre prochain. Comme il a été dit, les sujets ont été inspirés par les participants de cette année. C'est vrai que c'est plus intéressant voilà, que les gens désignent un petit peu leur coup de cœur. Pour la première session, ça va tourner autour des vins bio. Parce que les vins bio, c'est vrai qu'on en entend de plus en plus parler. On ne sait pas trop ce que c'est, on hésite un peu. On se rend compte quand même que c'est à peu près 10% de la production générale, là, notamment en France. Donc ça commence à monter. Et on fera la distinction entre le bio, les biodynamiques, le vin nature. Enfin, voilà, c'est des appellations très différentes. Et on verra que c'est complètement différent hein, les uns des autres. Hein. Les natures, par exemple, n'utilisent pas du tout de soufre. Contrairement au bio, enfin bon voilà, on verra toutes ces différences là. Ensuite, on aura la côte de Beaune, parce qu'on s'est dit que voilà, on connaissait bien tout ce qui était côte chalonnaise, mais bon, on connaissait finalement pas tant que ça les vignobles autour, et on parle beaucoup aussi des vignobles du Languedoc, etc., mais pas forcément de ce qu'il y a chez nous. Donc la côte de Beaune, ce sera le 20 décembre. Donc on verra tout ce qui concerne la côte de Beaune, les rouges, les blancs, autour de 4 à 5 vins, 5 à 6 vins même plutôt. Ensuite, on a prévu une session sur les vins du Portugal, parce que on est évidemment plus connaisseurs des Portos, mais le Portugal a aussi des vins qui sont extrêmement intéressants, que ce soit en rouge et en blanc. Donc on découvrira les vins du Vino Verde, du Dao, avec des cépages autochtones, hein, parce qu'ils ont principalement que des cépages autochtones. Donc ça, c'est très intéressant. Ensuite, on a une session sur les vins du Jura, donc qui sera le 7 février. Celui d'avant, j'ai oublié, c'est le 24 janvier, mais bon, vous aurez toutes les dates, hein, de toute façon. Ça a été demandé aussi, parce qu'on a un petit peu une idée caricaturale des vins du Jura. Hein. On pense toujours aux vins oxydés, sur les arômes de noix, on ne sait pas trop. Et en fait, ce sont des vins aussi, pour beaucoup hein, d'entre eux, dans les vins blancs, qui ne sont pas oxydatifs. Donc Chardonnay, Savagnin, par exemple, pour les cépages. Et ils ne sont pas élevés sous voile. Donc on a aussi des vins très intéressants, très frais. Donc on examinera tout ça, le verre à la main, comme dit Philippe Stroel à chaque fois. Et puis, donc, pour la dernière session, on a prévu donc une session inspirée par les participants, comme ça avait bien fonctionné l'année d'avant. Et l'année dernière, on avait travaillé sur les effervescents, et les champagnes en particulier. Donc, cette année, voilà, on verra ce que les participants voudront faire. Donc c'est pour entre 10 et 15 participants, hein, parce qu'on a une salle qui permet pas forcément d'accueillir énormément de monde, puis c'est mieux d'être en petit comité aussi hein, pour pouvoir déguster plus facilement. Donc je pense que j'ai à peu près tout dit.
Merci.
Voilà. Merci beaucoup à tous.
Merci.
À bientôt.
Alors l'année dernière, il y a eu beaucoup de monde, hein, ça a bien marché. Pour vous situer, on avait lancé cette opération, ce type d'atelier il y a quelques années là. Tout simplement parce qu'on s'est rendu compte, entre autres à Dijon et en plus à Sens, c'est loin de... Le Sens, c'est quand même pas un pays de vignes très réputé. C'est une UTB qui est à peu près les deux tiers de notre taille. Il y a six groupes qui marchent tous les ans. Donc il y a plus de 100 personnes qui font de l'œnologie à l'UTB de Beaune, alors qu'il y a moins de 500 adhérents. Donc, tirez-en les conclusions que vous voulez, mais ça m'a paru bizarre que dans une région au cœur du Chalonnais, on n'ait pas un intérêt pour ce genre de choses du même niveau. Bon, donc venez, s'il y a beaucoup de monde, eh bien on fera plusieurs groupes, voilà. Merci. Alors, pour ne pas faire complètement un parcours à la baroque, on va quand même revenir sur les ateliers de langue. Donc, je ne redis pas ce que j'ai dit, la formule découverte, on la propose dans tous les ateliers, dans toutes les langues, et donc on commence par l'anglais. Alors, on va commencer par Benita, voilà. Et puis après, Michael va venir. Hein, voilà. Alors, voilà Benita Basson qui nous a rejoint il y a 2 ans. Benita Basson est d'origine sud-africaine. Ça se voit pas en la regardant. Et puis en plus, elle est très sympathique, ce qui ne gâche rien. Mais elle a eu un petit problème accidentel, là. Et le coude est très abîmé, mais les capacités linguistiques sont préservées. Donc Benita a accepté donc de faire le cours formule découverte.
Bonjour mesdames et messieurs, je m'appelle Benita Basson et
parlez bien dans le micro.
Comme ça. Oui, mais c'est dur. Je vais animer bien sûr. Le cours anglais pour les débutants. Pour être sûr et pour être clair, les débutants sont ceux qui ne parlent pas anglais, qui ne comprennent pas anglais. Donc peut-être quelques mots comme thank you, goodbye. Donc c'est pas un atelier, c'est pas pour les faux débutants, c'est pas une remise à niveau, mais plutôt l'apprentissage des notions de base et du vocabulaire de la langue anglaise à travers des situations liées au thème. Par exemple, si on prend le thème voyager, on pourrait bien envisager quelqu'un à la gare, au guichet, en train d'acheter un billet de train. Et donc, ce petit discours, dialogue, pourrait servir pour apprendre le vocabulaire qui va avec et bien sûr quelques notions de langue comme comment se renseigner, comment poser une question en utilisant les mots interrogatifs. L'atelier, comme M. Fournier avait dit, c'est bien un atelier de 4 sciences découvertes. Après ces 4 sciences, vous aurez l'option de vous réinscrire pour continuer avec des cours pour la durée de l'année. Le cours commence le 13 novembre au siège de l'UTB. C'est le mardi à 10h. Je vous souhaite un très bon après-midi et peut-être à bientôt.
Et on passe la parole à Michael, qui a envie de faire un laïus nouveau avec un de ses élèves. Voilà, témoignage.
Oui, bonjour. Donc j'ai fait cette présentation tant de fois, et donc cette fois j'ai pensé à une petite variété, donc je vais dire quelques mots sur les éléments des cours, et puis je vais passer le micro à un de mes étudiants qui vous donnera une perspective différente sur ces cours, peut-être différente de la mienne. Alors, qui peut s'inscrire à ces cours? Si vous avez une base en anglais, c'est-à-dire si vous savez les mots pour les mots quotidiens, les mots pour les objets dans la salle, etc. Si vous comprenez les principes de la grammaire anglaise. Et si vous pouvez poser une question simple en anglais et comprendre la réponse, vous pouvez vous inscrire. Il y a donc un grand éventail de connaissances et compétences parmi les étudiants, de ceux qui ont une compétence basique jusqu'à ceux qui peuvent parler assez couramment et qui peuvent lire la littérature anglaise. Et les cours sont conçus pour tenir compte de cette variété de connaissances. Donc, je vous donne une idée d'un cours typique. Donc, on commence avec un peu de conversation, puis on essaie un point de linguistique, par exemple la prononciation, ou un peu de grammaire, par exemple les noms composés, et on apprend que, alors qu'en français, on dit une brosse aux dents, en anglais, on dit toothbrush, singulier, et non pas teethbrush, etc. Les choses comme ça. Puis on lit un texte qui pourrait être tiré d'un magazine ou peut-être un peu de littérature. Après ça, on regarde une vidéo parce que je peux capter la télévision britannique avec ma parabole et on regarde une vidéo avec les sous-titres en anglais. Et ainsi, on peut découvrir de nouveaux mots, de nouvelles expressions, etc. Et on peut discuter du thème de cette vidéo. On fait la même chose, bien sûr, avec les textes. Donc, ça, c'est ce sont les éléments de mes cours. Et maintenant, je vais passer le micro à M. Baguet, qui vous donnera ses impressions de ses cours. Et je vous assure que je n'ai rien payé.
Donc vous avez le droit de le critiquer, en clair.
Oui, en réalité, Michael m'a déjà coupé l'herbe sous le pied parce qu'il a dit tout ce que j'avais prévu de vous dire. Simplement, je voulais commencer par ceci, c'est que lorsqu'on avance en âge, il est naturel de s'interroger sur l'opportunité de prendre des cours. Parce que soit on galère pour s'exprimer en anglais lorsqu'on est à l'étranger, et à ce moment-là on peut se dire, bon, ben, à quoi bon, ce n'est plus maintenant que je vais faire des progrès. Ou alors, à l'inverse, quelqu'un qui se débrouille bien peut dire, j'en sais assez, et ça n'est pas la peine que je retourne sur les bancs d'école. Donc moi, avec mon expérience, ce que je peux vous dire, et ce que j'ai envie de vous dire, c'est que quel que soit votre niveau en anglais, pour peu que vous soyez intéressé par la matière, vous trouverez toujours quelque chose d'intéressant dans les cours de Michael.
Donc il a envie de continuer. Voilà.
Donc... Michael a été sans doute trop modeste pour vous le dire. Donc, moi, je peux le dire en tant qu'étudiant, c'est qu'il possède, à mon sens, toutes les qualités requises pour rendre ses cours attrayants. Bon, comme vous l'avez constaté, il est parfaitement bilingue. Il a un accent qui est très facile à comprendre. Qu'est-ce qu'il a encore comme qualité? Ah oui, il est cultivé, ça c'est très important, il est cultivé, il s'intéresse beaucoup à la musique, à la poésie, et au sport, enfin il s'intéresse à beaucoup de choses, donc ce qui lui permet de sélectionner des sujets très variés pour comme support de ses cours. Donc il a déjà dit, bon, en deux mots, je confirme que ses cours sont toujours bien structurés. Il commence généralement par de la grammaire, ce qui ne fait jamais de mal à personne. Ensuite, il nous fait travailler un texte donc choisi soit dans un journal, soit dans un roman, etc. Et puis, via la séquence vidéo, que je trouve, moi, pour ma part, particulièrement intéressante, parce que donc il nous fait voir un reportage généralement produit par la BBC avec les sous-titres en anglais. Il revient en arrière et il s'assure bien que tout le monde ait compris, et ça fait énormément progresser la compréhension orale.
Merci.
Voilà, j'espère que j'ai bien vendu.
On va essayer d'accélérer un peu le tempo parce qu'il y a beaucoup de monde à passer. Donc, la conversation Pagnon, là, un petit laïus sur le groupe de conversation qui est dans la foulée des cours d'anglais.
Oui, bonjour. Donc, la conversation anglaise, c'est une suite logique des cours d'anglais qui sont prodigués par Michael Velette en particulier, qu'on a maintenant l'avantage d'avoir parmi nous. On a également Benita, qui est aussi, donc, dont sa langue maternelle est l'anglais. Donc, l'intérêt de la conversation anglaise, c'est d'avoir l'occasion, justement, d'échanger avec des gens qui ont la langue maternelle anglaise. Les cours sont... C'est la convivialité même. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de tabou. Il n'y a rien de figé non plus. De temps en temps, bon, il faut remettre un petit peu en ordre parce que ça peut déborder, mais on s'en sort bien. Donc, tous les gens qui ont pris des cours d'anglais, qui veulent maintenir leur anglais, qui veulent s'améliorer aussi, hein, parce que je peux aussi constater, comme Michel Beguet qui est venu tout de suite, on voit qu'il a pris les cours d'anglais et il est beaucoup plus à l'aise maintenant avec Michael Bullett, ça c'est sûr. Et donc voilà, donc c'est tous les mercredis à l'IUT à 17h15. Et on commence mercredi prochain, je crois que c'est le 3 octobre. Donc tous les gens sont bienvenus, ceux qui veulent parler. Quelquefois on est un peu trop nombreux, c'est un peu limite, on s'y fait.
Bien, voilà. Merci. Donc... l'allemand, est-ce que Madame Saint-José est là? Elle est venue? Oui, oui. Voilà. Je ne vous avais pas vu. Excusez-moi. Bonjour. Donc, Nicole Kasprick a voulu prendre sa retraite d'enseignante à l'UTB. Donc, on a accepté sa demande et donc on a demandé... on a cherché une autre intervenante qui intervient déjà à l'Université Populaire, donc elle a accepté de faire également des cours chez nous. Voilà.
Oui, ça marche. Oui. Bon, il n'y a pas trop à dire à la fin. Bon, les débutants, je voudrais juste que si quelqu'un s'inscrit, que c'est des frais débutants. Qui, pas des fausses, pas ceux qui n'ont pas parlé depuis 30 ans ou plus. C'est vraiment que les débutants. Et après, à partir de, je pense, à 10h30, ça commence les cours pour les faux débutants. Alors ceux qui, parce qu'il y a quand même l'allemand, c'est une langue où ça revient, même si on n'a pas parlé longtemps. Depuis très longtemps et où on n'a pas de rien fait, ça revient quand même, c'est sûr. Alors.
Donc, je confirme, moi, j'ai pas fait d'allemand, mais on a fait un voyage en Allemagne, donc la première semaine de septembre, et donc il y avait beaucoup de participants qui avaient fait l'allemand en première langue, et donc le fait d'être immergé dans le milieu, les choses sont revenues, si vous voulez, un petit peu pour les choses de base.
Oui, et bon, on va travailler. Bon, je vais donner des copies, c'est sûr. On va travailler selon un peu aussi comme les groupes ou les participants voudraient. Mais bon, c'est pas les frais de bouton, bien sûr. On va commencer vraiment avec la grammaire et avec des phrases de base, un peu comme avec l'anglais. On va prendre un thème chacun et on va commencer à zéro, et les fausses débutants, c'est selon les participants. Bon,
Voilà, donc n'oubliez pas, là voilà un cas, l'allemand, où le cours vrai débutant a beaucoup d'importance, parce que sinon on n'arrive pas à réalimenter, si vous voulez, les groupes de faux débutants ou d'un niveau supérieur, si vous voulez. C'est un phénomène qu'on a constaté dans l'espagnol, et là, ça y est, la pompe s'est amorcée. On a trouvé des gens qui avaient démarré à zéro et donc qui sont progressivement montés en régime. Donc, on espère beaucoup. On profite, entre guillemets, du fait d'une nouvelle intervenante pour dire, bon, écoutez, l'allemand, on met la gomme et venez essayer l'allemand, ne serait-ce que les cours, disons, de découverte. Voilà. Merci.
Rien. Au revoir.
On passe à l'espagnol. Monsieur Romero, donc, qui intervient chez nous depuis 3 ans déjà maintenant, c'est ça? Oui.
C'est bien ça. Mesdames, messieurs, bonjour.
Parlez bien près, oui. Le micro près de
Mesdames,
la bouche.
Mesdames, messieurs, bonjour. Alors, deux idées reçues circulent. La notoriété des cours d'espagnol de l'UTB est en croissance. La première, ce serait que l'espagnol est d'un abord relativement simple et qu'on peut se débrouiller très vite.
C'est pas vrai.
Attendez. La deuxième, c'est que on prendrait beaucoup de plaisir et on s'amuserait beaucoup pendant les cours d'espagnol de l'UTB. Je tiens à préciser que ces deux idées reçues sont totalement vraies. Voilà. Voilà. Effectivement, hein, le cours d'adaptation, disons, pour vrais débutants, s'est avéré très très fonctionnel. Hein, et nous, en fait, voilà, on peut démarrer très très simplement et intégrer relativement confortablement le groupe intermédiaire qui a un petit peu plus d'expérience. En plus, la discussion entre les deux professeurs est très facile puisque les deux professeurs, c'est moi. Donc voilà, pas de problème. Je voudrais juste préciser pour finir que nous abordons des thèmes extrêmement variés, hein, nous abordons des thèmes culturels, artistiques, nous abordons aussi des thèmes d'actualité, nous parlons aussi des préoccupations de chacun, chacun apporte son petit plus, et nous parlons également beaucoup de choses très pratiques comme par exemple louer une voiture, voilà, très terre à terre également. Et le but étant que chacun puisse se débrouiller, parce que beaucoup de monde veut aller voyager en Espagne. Et donc, on a quand même une base pratique, une base fonctionnelle. Voilà. Nous ne sommes pas tout à fait dans le système éducation nationale, où bon, on dit beaucoup de choses intéressantes, mais ensuite, on ne sait pas louer une voiture. Voilà.
Merci.
Et j'en aurais fini. Merci.
Et donc, on va terminer par le chinois. Merci, Madame Liranglou. Donc, je rappelle, Madame Liranglou intervient chez nous depuis l'an dernier. Hein, et donc, vous pourrez constater qu'elle est effectivement chinoise. Il n'y a pas de doute.
Bonjour
et donc,
tout le monde.
Voilà, allez-y.
Bonjour tout le monde. Je suis venue depuis l'année dernière. On a toujours le groupe initié, et puis pour les groupes débutants, ils sont venus 3, ils ont trouvé c'est intéressant, mais après, pour plusieurs raisons, ils n'ont pas continué. J'espère que cette année, vous pouvez venir pour découvrir cette langue. J'ai rien à vous porter pour vous montrer comme c'était la langue pour écriture et puis son système de prononciation. Mais vous pouvez venir pour découvrir, voilà, justement, au cours. Vous avez, je pense que 4 séances d'essayage. Et voilà, si ça vous plaît, vous pouvez continuer. Si ça vous plaît pas, ben, c'est pas grave. Vous avez fait une découverte. Et ici, je voudrais remercier les groupes initiés parce que j'ai commencé l'année dernière. Pour moi, c'est nouveau ici. Et tout s'est très, très bien passé. Ils ont bien travaillé. Et puis, on a passé des bons moments ensemble. Et cette année, je continue avec eux. Et je ne sais pas s'il y a des autres qui ont déjà fait chinois. Si vous avez déjà fait, vous avez un niveau, on va dire, faux débutant, vous pouvez essayer de venir et pour découvrir justement cette langue très différente que les vôtres, surtout l'écriture. Et l'année dernière, pour les faux débutants, enfin les débutants, on avait fait la calligraphie et j'ai présenté aussi les bases de la langue, comme le ton, voilà, c'est une langue à ton. Vraiment, ils trouvent ça intéressant. Et après, c'est un peu difficile, mais comment on dit, on l'apprend, on n'a pas besoin de vraiment, comment dire, de tout connaître. Au début, c'est peut-être, ah oui, c'est écriture, ça... Ça me gêne parce que je ne connais pas et tout. Mais après, au bout d'un moment, si ça vous intéresse, si vous avez la patience, comme moi, j'ai beaucoup de patience. Et voilà, on pourrait, par exemple, comme les couples initiés, ils m'ont dit, voilà, ce livre, ça nous plaît, c'est très bien, on continue comme ça. Mais on peut utiliser aussi l'ancien livre qu'ils ont utilisé avec l'ancien professeur. Pour moi, il n'y a pas de souci du tout. Et je reste là si jamais vous voulez venir pour demander. Et pas de souci. Voilà. Merci beaucoup. Peut-être à bientôt.
Merci. Sié-sié. Ça veut dire merci. Voilà. Vous avez vu, là je vais le dire d'une façon générique. C'est l'occasion que vous puissiez rencontrer, si vous voulez, les professeurs, mais indépendamment de ça, si vous voulez rediscuter avec eux, venir à la première séance, etc., bon, il n'y a pas de difficulté, parce que c'est vrai que c'est toujours un petit peu abstrait de s'engager sur quelque chose qui est écrit dans un catalogue ou dans les planches que je vous présente. C'est pour ça un petit peu qu'on fait venir les intervenants, de telle manière que vous ressentiez un petit peu la façon qu'ils ont d'aborder leur activité. Bien, alors maintenant, je vais essayer de me retrouver dans mon parcours zigzagant. Je vais faire déjà l'informatique. Je ne sais plus où c'est, voilà. Alors, l'informatique... Nous faisons de l'informatique depuis plus de 15 ans. Il y a eu un pic de demande au moment où tout le monde commençait à s'équiper en matériel. Et on a eu jusqu'à 80 étudiants certaines années. Et depuis un ou deux ans, on est plutôt dans la zone des 10 personnes, entre 5 et 10 personnes. Pourquoi ? Tout simplement parce que tous les gens se sont équipés, pour l'essentiel, qui veulent l'avoir, et deuxièmement, les machines sont plus faciles à manipuler, entre guillemets, et deuxièmement, la pratique réelle de ces machines fait que la nécessité que les uns ou les autres ont de se perfectionner peut paraître moins aiguë. Et les demandes des uns ou des autres sont extrêmement variées. Alors, ce que l'on essaye de faire cette année, c'est de proposer un menu à la carte, on va dire. C'est-à-dire, si on arrive à faire un groupe ou deux groupes qui sont homogènes au niveau des objectifs et ou au niveau des niveaux, de la force des gens, eh bien, on les met en place. Il y a 6 séances de 1h30 et pour pouvoir organiser ça, il faut déjà s'inscrire, au sens de dire ben ça m'intéresse, et ensuite je fais une réunion dans la première quinzaine de novembre pour demander aux personnes qu'est-ce qu'elles souhaitent faire. Soit elles sont complètement débutantes ou juste débutantes, soit elles ont des demandes tout à fait spécifiques dans la bureautique, dans l'internet, dans la messagerie, même éventuellement la retouche photographique ou des choses comme ça. Et en fonction de ça, on organise le contenu de la formation. Alors cette année, je vais payer de ma personne, parce que j'ai vu que l'an dernier ça n'avait pas très bien marché parce que le groupe était très hétérogène. l'intervenant, c'était un étudiant de l'IUT, et il est un peu déboussolé par le fait que les gens lui posaient des questions très très variées. Donc, en fonction de la réunion, eh bien, je me ferai assister, c'est-à-dire on fera un cours à deux personnes, c'est-à-dire je serai là et il y aura un étudiant de l'IUT qui viendra en appui et qui, si on est 6 ou 8 personnes, ben, si vous voulez, on pourra se partager entre les différentes personnes qui sont. Alors, ça se passe à l'UTB. Et donc, il est hautement souhaitable, et ça a été le cas ces dernières années, que les personnes viennent avec un PC portable ou un micro Apple portable, et qu'on peut raccorder sur notre réseau informatique, donc avoir Internet, et surtout pouvoir projeter leur écran dans notre salle de projection, de telle manière que quand on fait une manip, eh bien, les autres participants puissent voir ce qui se passe sur la projection, comme on fait ici. Donc, retenez une séance d'organisation et de demande des souhaits des participants, la première quinzaine de novembre. Ensuite, on dit ben, c'est tel jour à telle heure, et on s'organise en fonction des demandes des uns ou des autres. Donc, manifestez-vous. Pour le moment, vous ne payez rien. Vous dites « je suis intéressé par l'informatique ». Vous vous manifestez au secrétariat et puis ensuite le processus se déroule. Voilà. Alors, on va maintenant parler français, hein, quand même un petit peu. Voilà, la dictée, donc Liliane. Non, micro.
J'aime pas du tout me parler là-dedans. Donc, depuis 2009, nous faisons de la dictée à l'UTB, les deux lundis par mois. Que vous dire ? Vous vous inscrivez, vous venez avec un papier, un crayon, votre bonne volonté, et nous faisons le reste. Donc, je vous explique un petit peu le déroulement d'une séance. On lit la dictée, on l'écrit, je la dicte, vous l'écrivez. On corrige ensemble, on voit les points de grammaire qui peuvent être litigieux, les points de vocabulaire, et puis un petit peu la culture de l'auteur autour. On corrige, et puis l'après-midi ou le lendemain, j'envoie à tous un corrigé de la dictée avec ce qu'une de nos participantes appelle le tourne-autour, c'est-à-dire la règle de grammaire, la fiche d'accord des participes passés, les noms composés, etc., etc., etc. Et voilà, en route pour 2 semaines plus tard, une autre dictée. Et vous retrouvez sur le site internet toutes les dictées qui sont faites, le site internet de l'UTB.
Donc, merci beaucoup Liliane, mais je rajoute une chose, la dictée a un succès phénoménal, tel qu'on est à la limite de la capacité de nos salles. Donc, les premiers inscrits sont les premiers servis. Donc, pour ceux qui sont intéressés, s'il vous plaît, inscrivez-vous. Donc, il est urgent de vous dépêcher. Voilà. 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 Donc, Madame Coffin, on va passer au groupe lecture.
Alors, le groupe lecture s'est réuni le troisième jeudi du mois, d'octobre à mai, le matin de 9h30 à 11h45, sauf pendant les vacances, au site Saint-Georges, 30 rue Saint-Georges à Châlons. Nous y étudions en général la littérature des 20e et 21e siècles. En octobre, nous nous retrouverons, comme d'habitude, autour de nos lectures de vacances. Cette année, nous lirons les écrivains suivants. Béatrix Beck, qui est une Française d'origine belge, Pierre Michon, qui est français, Jean Echenoz, qui est français également. et une séance sera consacrée à la nouvelle. Au mois de janvier, nous nous retrouverons autour des prix littéraires de l'année 2018. Et au mois de mars, pour le printemps des poètes, nous lirons des poèmes de François Cheng, qui est un Français d'origine chinoise. Nous terminerons notre année avec nos lectures d'enfance et de jeunesse. Voilà notre programme pour cette année. Nous avons aussi, comme notre séance a lieu le matin, nous pouvons nous retrouver à déjeuner à la Bonne Humeur, rue des Cornillons, à un prix très raisonnable. Voilà, ce n'est naturellement pas obligatoire.
Merci beaucoup. Alors, je rappelle, voilà le cas typique d'atelier gratuit, puisqu'il n'y a pas d'intervenant extérieur. Donc, si vous avez l'habitude de venir, je parle surtout aux habitués, faites l'effort de remplir votre feuille d'inscription. Donc, pour qu'on sache bien qui participe dans ces différents ateliers. C'est valable pour tous les ateliers, et en particulier les ateliers gratuits. Alors, le groupe littérature, c'est François Spio qui anime ce groupe, mais qui n'est pas disponible aujourd'hui. Donc, c'est Liliane qui participe également à ce groupe, qui va parler à son compte. Voilà.
Le premier lundi du mois, en général, nous nous consacrons à la littérature. Différence avec la lecture, il s'agit d'une œuvre, pardon, d'un auteur contemporain, alors 20e ou 21e siècle. Littérature, il s'agit d'une œuvre de littérature classique. Vous voyez, on a par exemple, au mois de janvier, Françoise Pio qui va nous parler d'Électre d'Euripide. Donc voilà, c'est plus du tout la littérature contemporaine. Donc le lundi 1er octobre, Madame Coffin va nous parler d'une histoire de la littérature française. Au mois de novembre, Brigitte Alladame nous parle de Frankenstein et de Mary Shelley. En décembre, on découvre la littérature ou l'écriture de Mouloud Feraoun dans La Terre et le Sang. Ensuite, au mois de janvier, Euripide. Au mois de février, Gogol et les âmes mortes, c'est Monique Sarrazin qui nous en parlera. En avril, Marthe Bourdaillet nous expliquera l'immoraliste de Gide. Et au mois de mai, Monique Goudard nous parle de Dorian Astor à travers la biographie qu'elle a écrite de Lou Andrea Salomé. Donc, il y a des dates à changer. Dans ce que vous avez vu peut-être sur le programme général de l'UTB, parce que le 5 novembre, ça sera indisponible pour la littérature pour cause d'Assemblée générale. Donc on vous attend le 1er octobre autour de Kléber Hédens et de Christiane Coffin, c'est tout, en salle E à l'UTB, palier à droite. Voilà.
Merci.
Atelier gratuit, inscrivez-vous.
Voilà, c'est bien de le rappeler. Voilà. Alors, groupe Patrimoine écrit de Bourgogne. C'est un groupe qui est animé par Françoise Raslovleff, mais qui est absente aujourd'hui. Donc, je parle en son nom. Nous venons de publier les résultats de ses travaux à la fin de l'année dernière. Donc c'est une biographie du comte de Rambuteau. Le comte de Rambuteau, c'était le préfet de la Seine jusqu'en 1848, et c'est lui le prédécesseur du baron Haussmann qui était préfet de la Seine sous le Second Empire. Mais c'est vraiment lui qui a initié la transformation de Paris. Et donc, pourquoi a-t-on fait une biographie de ce monsieur Rambuteau? Ben, pour deux raisons, c'est qu'il n'y en avait pas, d'une part. Deuxièmement, c'est un bourguignon, c'est-à-dire il est de la région mâconnaise. Et troisièmement, ses descendants s'appellent toujours Rambuteau, sont toujours là et ont donné accès aux archives familiales qui n'ont jamais été publiées pour faire un travail d'histoire originale. Donc, voilà le type d'activité que l'on mène dans le groupe Patrimoine Écrit de Bourgogne. Donc, pour le moment, il n'y a pas de projet identifié. Il y a quand même quelques idées pour la suite. Les idées sont les suivantes. Pour le moment, c'est pas décidé, puisque en fait, c'est le groupe qui finalise son projet. Hein. Ce groupe avait écrit un ouvrage très original. Moi, c'est celui que je préfère dans notre collection. C'est le journal d'un Chalonnais au XVIIe siècle. C'est le journal de Noé Lacroix. C'était un notable Chalonnais qui, pendant 15 ans, a écrit tout ce qui se passait. C'était son journal quotidien. Ça a été donc réédité il y a une quinzaine d'années par l'UTB et c'est épuisé, presque. Et ça mériterait de le rééditer et en l'augmentant. Et ça consisterait à quoi faire ? Ben, deux choses. Premièrement, d'intégrer des éléments d'un autre ouvrage qui a été fait il y a beaucoup plus longtemps, dans les années 90, c'est-à-dire Chalon au XVIe siècle et Chalon au XVIIe siècle, qui sont des monographies assez volumineuses, mais qui datent un petit peu. Donc, refondre tout ça, si vous voulez. Et deuxièmement, y associer un travail sur l'histoire de l'hôpital. Vous sachez que Françoise Rasselevlet est présidente de l'association Abigail Mathieu et elle a le projet depuis des années et des années d'écrire cette histoire de l'hôpital. L'association a tous les éléments pour pouvoir le faire. Encore faut-il d'une part avoir des rédacteurs et deuxièmement avoir une logistique qui permette de faire l'édition de ces ouvrages. Donc on a convenu avec elle de travailler en coopération. Hein. Nous assurons la logistique et ce groupe patrimoine a vocation à accueillir les rédacteurs sur l'histoire de l'hôpital. Et deuxièmement, on sait faire la composition graphique, les couvertures, l'impression, on sait le faire par des spécialistes. Donc voilà les projets qui sont sous-jacents, mais qui ne sont pas encore actés, si vous voulez. Alors c'est un... Comment ? Oui, première réunion 15 octobre. Donc s'il y a des gens qui sont intéressés par l'histoire, qui sont même éventuellement à la Société d'Histoire de Chalon, la SHAC, parce que on avait aussi fait une convention avec la Société d'Histoire, c'est que dans les ouvrages nouveaux qu'on publierait, on utiliserait l'iconographie, qui est très riche, dont la Société d'Histoire dispose. Par contre, la Société d'Histoire n'a plus de logistique, je dirais, éditoriale, hein, si tant est qu'elle n'en a jamais eu une. Donc nous, on est un peu moins mauvais que la Société d'Histoire, voilà. Si ça vous intéresse, inscrivez-vous, toujours le même processus, et venez surtout à la première séance si vous êtes curieux de ça. On a détecté une personne qui pourrait être intéressée pour participer à ce groupe-là. D'ailleurs, je la vois, je la regarde dans le blanc des yeux. Voilà. Bien. Alors, ensuite, groupe économie et géopolitique. Alors, ça c'est un groupe qui a le même type de fonctionnement que le groupe éthique et société, c'est-à-dire des analyses, pas d'ouvrages, mais essentiellement des analyses d'articles sur des thèmes définis par les participants. Et donc j'ai confié, parce que c'est moi qui en principe était l'animateur, vu le nombre de choses que j'ai à faire, j'ai un peu de mal à animer, donc c'était un petit peu désordonné. Donc j'ai demandé à Denis Maillard, qui était un fidèle de ce groupe. Denis Maillard, c'est notre vérificateur au compte, c'est en plus mon voisin, ce qui facilite un peu les choses, et donc d'animer cette année ce groupe-là et de faire quelque chose de plus structuré avec, et Dieu sait si l'économie et la géopolitique, c'est un sujet qui est largement d'actualité. Donc si ce sont des sujets qui vous intéressent, eh bien vous êtes les bienvenus pour y participer. On ne cherche pas à avoir pour le moment nous sommes 4 ou 5 si vous voulez, pas plus, c'est très bien, on peut accepter deux ou trois personnes de plus. L'expérience a montré que si les groupes sont plus de 6-7 personnes, ça marche pas parce qu'on n'arrive pas à dialoguer. C'est difficile à gérer. Parce que là, la partie débat est plus large que la partie exposée que dans le groupe éthique et société. Éthique et société, on en a parlé. Alors là, je rebondis sur l'édition et la vente d'ouvrages et d'histoires locales. Donc, je demande à... Je ne les vois plus, là. Jeanne-Marie. Ah, elle est là. Voilà, Jeanne-Marie. Levez-vous. Toutes les deux. Donc, Jeanne-Marie Michel et Michel Beaumont, dans l'ordre où elles apparaissent, voilà, ont accepté de gérer nos ouvrages. Qu'est-ce que ça veut dire gérer ? Eh bien, tout simplement, il y a 10 ans, on n'en avait que 2 en catalogue. Aujourd'hui, on en a 21. Et on essaye de les vendre et de gérer le stock et de s'occuper de la commercialisation. C'est pas vraiment un travail qui est naturel chez nous. Donc, elles ont accepté d'assurer cette tâche. Donc, il y a un travail de base de données, de suivi, d'organisation administrative qu'elles ont mis en place. Et voilà les exemples des derniers ouvrages qu'on a pu éditer. Alors, je fais une incidente, là, justement, celui qui est complètement en bas à droite, là, Niepce, le pire et le fort, qu'on a sorti il y a 3 ans. Nous venons de le retirer, puisqu'il était quasiment épuisé, et on l'a retiré, c'est pas simplement pour le plaisir de le retirer, c'est que jeudi soir, au Musée national du Conservatoire des Arts et Métiers à Paris, il y a une inauguration avec tout le gratin de l'Académie des sciences et de tout ce que vous pouvez imaginer. Il y a même le président de l'UTB qui va y aller. Et pourquoi on va dans ce... Ben c'est qu'il y a une maquette qui a été construite grâce à un généreux mécène, et une maquette de cette machine qu'on peut voir à la maison Niepce de Saint-Loup, qui va être exposée au musée du CNAM, donc à Paris, avec une couverture médiatique que nous espérons la plus large possible. Et donc, le fait de faire des bouquins, c'est sympa, mais si on les garde dans les placards, c'est pas génial. Donc, il nous faut nous dépenser un petit peu en promotion de ses ouvrages. Donc c'est une occasion de faire une promotion. Je cite le cas par exemple de Rambuteau, voilà l'ouvrage de Rambuteau. Eh bien, il y a eu une séance au château de Rambuteau à la fin de l'année dernière, et là, il s'en est vendu 60 exemplaires. Voilà, Bussy Rabutin, ça a été. Et la meilleure vente qu'on ait fait, par exemple, c'est l'histoire du baron Thénard, hein, Louis-Jacques Thénard, on atteint presque les 500 exemplaires vendus, ce qui n'avait rien d'évident au départ, tout simplement parce qu'on vend ça dans le réseau familial de cette grande famille. Donc, quand on fait des travaux, on a quand même un petit peu en arrière-plan la vente des ouvrages. Et l'expérience a montré ces dernières années que ça fait une contribution non négligeable à notre résultat, c'est-à-dire c'est 1000 euros, 1500 euros, c'est 3-4% de notre chiffre d'affaires. C'est pas zéro, c'est pas des chiffres extraordinaires, mais s'ils n'étaient pas là, eh bien ça ferait zéro. Et donc, quand on fait un excédent de 2000 euros, eh bien, simplement, ça peut s'expliquer parce qu'on a bien vendu un bouquin. Donc, il faut s'en occuper. Donc, merci à Jeanne-Marie et à Michel de s'en occuper. Alors, j'ai tout dit, donc c'est pas, je ne les ai pas fait lever pour rien, mais je vais les faire parler pour le deuxième sujet. C'est la bibliothèque de près. Voilà. Alors... Voilà, on va avoir un duo tout à fait extraordinaire. Voilà.
On est danse pas. On ne chante pas non plus, d'ailleurs. Bonjour à tout le monde. Oui, donc
micro plus près.
Oui. Voilà. Nous avons à l'UTB un certain nombre d'ouvrages, plus de 500, que nous avons quasiment fini de répertorier et de classer, et donc qui sont prêts à être prêtés à qui le veut bien de manière gratuite. Cette bibliothèque va fonctionner le premier et le troisième vendredi du mois, pas le mardi comme c'était inscrit dans la plaquette, parce que c'est l'Italien qui nous a pris la place. Tant pis. Pas grave. Donc, le premier et troisième vendredi de chaque mois, vous pouvez emprunter trois ouvrages pour un délai d'un mois environ. Le retour se fait au même moment, enfin aux mêmes horaires. C'est le matin de 10h à midi, j'ai oublié de dire. Et par contre, le retour, certes, quand nous serons là le vendredi, mais également une autre matinée où le secrétariat est ouvert, c'est possible, les dames qui sont à l'accueil peuvent très facilement récupérer vos ouvrages si vous avez l'opportunité de venir les poser. Quels ouvrages nous avons ? Nous avons énormément de livres documentaires, quelques fictions, mais pas beaucoup. C'est surtout des livres documentaires. Ils seront bientôt en ligne sur notre site. Pour le moment, il y a quelques livres qui sont déjà accessibles sur le site, mais c'est une version un peu...
C'est en chantier, voilà.
C'est en chantier, c'est un brouillon. Disons qu'on est un petit peu tributaire des informaticiens qui doivent...
Faire le développement, voilà.
Oui, faire le développement avec les indications les retouches qu'on leur a demandé de faire. Donc pour le moment, c'est pas encore fait. Petit à petit, ça sera fait. Et donc, ça sera intéressant de pouvoir consulter cette liste sur Internet. Et normalement, on pourra même réserver les livres et venir les chercher après à l'UTB.
Enfin, on insiste un peu sur le fait de venir physiquement les voir. D'abord, ça vous permet de voir les deux dames que vous voyez aujourd'hui et qui vous avez un échange avec elles sur le fait de dire ben, tel bouquin, c'est intéressant. Vous savez que je suis un promoteur frénétique de l'informatique et des sites internet et des choses comme ça. Je suis aussi sensible au fait que les gens puissent se rencontrer et qu'il puisse y avoir un échange. Parce que une bibliothèque de 500 bouquins, je vous rassure tout de suite, elles les ont pas tous lus, mais elles savent quand même à peu près quel est le spectre des ouvrages qui existent dans la bibliothèque. Voilà.
Oui, nous commencerons le mois prochain, le premier vendredi. Ça doit, qu'est-ce qu'on a dit, le 5, ça fait ça, le 5 novembre. Voilà.
Donc merci, c'est un gros travail, je les remercie encore publiquement, c'est un gros travail qu'elles ont fait, et donc scanner toutes les pages des ouvrages et les mettre en ligne, c'était long et fastidieux, voilà, merci.
Voilà, donc on est parti, le fonds documentaire de cette bibliothèque, c'était au départ les livres qu'ont donné le professeur Fourneret, hein, qui travaillait au lycée Pontus de Thiers, que beaucoup de gens connaissent. Mais là, donc en gros, si vous voulez, la bibliothèque, c'est 75% de documents et essais et 25% de romans. Notre but, c'est pas du tout de dupliquer les bibliothèques municipales qui font très bien à proposer les nouveautés, les prix littéraires, etc. Nous, notre but, c'est un petit peu d'élargir, d'approfondir, ou au contraire, de revenir sur les bases de sujets qui sont abordés à l'UTB. Et donc, je profite de l'occasion pour faire un appel aux dons aux gens qui pourraient avoir chez eux, des livres de base, hein, des livres... Par exemple, des livres de cours qu'on enseigne au lycée ou à l'université, des introductions, par exemple, je pense à la sémiotique, à la paléontologie, je ne sais pas, sur la dérive des continents, Voilà, ce genre de choses, nous sommes preneuses. Parce que bon, chacun peut avoir des lacunes, peut pouvoir approfondir les choses, ou simplement se cultiver. Hein. Donc, si vous avez ce genre d'ouvrage...
Ils sont les bienvenus. N'en amenez pas des tonnes, parce que le volume des rayonnages et des salles est limité. Mais si vous avez des ouvrages d'intérêt général, on les acceptera bien volontiers sous les fourches caudines de ces deux dames. Voilà. Voilà. Merci. Ça, on va répercuter ce message, si vous voulez, par des mailings et des choses et le bulletin. Mais bon, on tenait à vous le dire. Voilà. Donc, il nous reste un ou deux ateliers. On va terminer par la marche, parce que c'est l'apothéose, bien sûr, la marche. Un atelier que j'anime moi-même, c'est l'atelier Wikipédia. Alors, ceux qui connaissent Wikipédia, je rappelle, Wikipédia, c'est une encyclopédie en ligne sur Internet, qui est le 7e site en termes de fréquentation sur l'Internet au niveau mondial, et qui est libre et qui est entièrement rédigé par des bénévoles. Et il y en a suffisamment sur la planète entière pour pouvoir alimenter ce monstre qui fait à peu près 1000 fois en volume les plus grosses encyclopédies institutionnelles comme l'Encyclopédia Britannica, par exemple. Alors, j'ai fait une conférence il y a quelques années sur l'histoire de cet outil, qui est quand même un peu incroyable, hein, et ça marche toujours, hein, tout le monde en est estomaqué. Mais, disons, 99% des gens l'utilisent comme utilisateur et ne vont pas plus loin. Le 1% qui reste, ou même moins encore, contribue à alimenter, à faire les modifications des articles. Donc cet atelier, il a pour but d'apprendre à faire, à créer des fiches ou à modifier des fiches. Et donc ça, c'est tout à fait intéressant, parce que qu'est-ce qui nous a orientés à faire ça? Tout simplement parce que au premier degré, on cherche à mettre, à créer des fiches et à mettre en référence les ouvrages qu'on a pondus, puisqu'elles, ce sont des sources, des fiches qui existent ou qui sont complétées par nos soins. Donc, c'est pas si facile que ça à faire. Donc, il y a un petit côté apprentissage des manipulations. Et puis, deuxièmement, on a des projets de dire, ben voilà, on va travailler sur telle ou telle ou telle fiche, et on fait des petits groupes de deux personnes qui travaillent ensemble, qui lisent des bouquins et qui font des adaptations. Alors, des fiches essentiellement sur l'histoire locale, sur l'histoire industrielle de Châlons, histoire industrielle du Creusot, sur les Schneider, sur les Chagot, donc il y a déjà des gens qui travaillent là-dessus. Donc si vous, à titre personnel, vous avez un hobby particulier et vous trouvez qu'il est maltraité dans Wikipédia ou qu'il n'est pas traité du tout, ce qui est en général pas le cas, parce que Wikipédia il parle de tout et encore plus, eh bien, et que vous voudriez sur telle ou telle fiche, il y a 3 ou 4 fiches qui racontent des choses sur ce qui vous intéresse et qui disent ben c'est incomplet, il y a des fautes et tout, mais je ne sais pas comment faire pour le changer. Eh bien, venez nous rejoindre et on vous expliquera comment faire. C'est pas très difficile. Ça demande un petit apprentissage, si vous voulez. Voilà. Donc, pareil, atelier Wikipédia. Donc, c'est une fois par mois. Ça dure 2 heures, et puis on fait 1 heure de manip, si vous voulez, pour se remettre à jour sur l'art et la manière de manipuler l'outil, et puis 1 heure pour parler des travaux en cours. Et très rapidement, il y a des réunions indépendamment de l'atelier qui se font entre les rédacteurs qui disent ben, « j'ai lu ça, on a déjà réussi à faire entrer dans le circuit des personnes qui sont de l'Académie Bourdon au Creusot, qui nous aident à faire des parties d'articles sur des fiches Wikipédia. » Voilà. Et donc, on va aller à la conclusion, mais c'est ce que j'appelle l'apothéose. J'espère que je n'ai rien oublié. Voilà. Je vais dire simplement un mot là-dessus. Oui, voilà. Alors, les voyages culturels, c'est pas un atelier, c'est une activité, mais on les classe dans les ateliers. Donc, je rappelle que nous faisons des voyages qui sont en illustration de thèmes qui ont été traités soit dans l'année précédente, soit les quelques années précédentes, qui sont en illustration de thèmes de conférences. Et donc, cette année, les grands voyages qui sont prévus, voilà la liste, hein, et, c'est sur le site. Et il y a un groupe qui s'occupe de faire cette organisation. On travaille avec, bien sûr avec des agences. Donc, la seule information que je vous donne, c'est que quand vous venez vous inscrire, on vous demande si vous êtes intéressé par tel ou tel voyage. Mettez des petites croix dans les colonnes de telle manière qu'on sache s'il y a vraiment un voyage qui vous enthousiasme et de telle façon qu'on confirme le fait que on va s'occuper de l'organisation parce que ça demande quand même un petit peu de travail. Enfin, cette année, pratiquement tous les voyages que vous voyez là, à part la Toscane qui n'est pas du tout organisée, mais c'est dans un an, les autres sont bien déblayés. Et je reviens sur la marche. Donc, je vais sortir du diapo et donc je demande à Monsieur Gallet de venir nous parler de la marche. Alors, et là, il m'a apporté un petit fond d'écran qui permet d'illustrer cette activité.
Bonjour, presque bonsoir. Oui, j'ai demandé à Monsieur Fournier si on avait la possibilité de passer quelques diapositives des marches que nous avons faites l'année dernière, d'une part pour illustrer mon propos et d'autre part pour, en fin d'après-midi, comme ça, donner un petit peu de peps à cette fin de conférence. Deux fois par mois, plus précisément le deuxième et le quatrième lundi de chaque mois, nous vous invitons à faire une petite randonnée l'après-midi dans le Chalonnais. C'est une activité qui commence au mois d'octobre et qui se termine fin mai, généralement par un pique-nique. Ces randonnées sont effectuées sur des circuits que nous dessinons à l'aide de cartes IGN, et pour lequel nous effectuons, un petit groupe effectue une reconnaissance la semaine précédant la randonnée, et d'autre part, nous sommes sécurisés par un GPS. J'ai tout noté parce qu'il ne faut pas en oublier. Les distances. Alors, les distances parcourues vont de 10 à 14 km à peu près, avec des dénivelés de quelques mètres pour la Bresse, jusqu'à 400 mètres de dénivelé positif dans certains endroits. Et l'année dernière, nous avons tenté et réussi d'ailleurs à quatre reprises à effectuer, lorsque les distances sont un peu longues, à effectuer deux circuits. Un circuit long que tout le monde ne fait pas et un circuit court. On part tous ensemble et arriver aux deux tiers ou aux trois quarts de la randonnée, certaines personnes peuvent écourter de 2 ou 3 kilomètres de manière à pouvoir s'inscrire, même si au départ les choses leur paraissaient un petit peu trop importantes pour leur capacité. Alors, comment participer? Comme toutes les activités UTB, en remplissant le bulletin que vous connaissez tous. Et en complément, il faut amener 3 euros. Ces 3 euros correspondent à une participation à une assurance que l'UTB a pris auprès du groupe AXA, qui d'une part est une assurance responsabilité civile de l'UTB lors de cette activité, mais surtout, ce qui est plus intéressant pour les participants, c'est une activité qui vient en cas d'accident, en complément de vos assurances habituelles, à savoir sécurité sociale, mutuelle complémentaire. D'autre part, il est demandé au moment de l'inscription également un certificat médical d'aptitude à une marche de 10 à 15 km, certificat que vous obtenez chez votre médecin habituel. En ce qui concerne l'équipement, bon, il ne s'agit pas d'une activité sportive à proprement parler, mais il est évident que pour marcher toute l'année sur les chemins bourguignons, il y a un minimum à posséder. L'outil de base étant une bonne paire de chaussures de marche montantes complétées d'un petit sac à dos dans lequel on va mettre son caouet à boire, bien de l'eau, bien évidemment, et de l'eau ou autre, mais non alcoolisée, dirons-nous, et un petit encas, enfin tout ce qui peut servir dans la journée. À l'inscription, il est remis aux participants un petit fascicule qui rappelle un petit peu les règles générales de la manière dont on doit se comporter lorsqu'on est en groupe, en randonnée. Pour se rendre sur place, avant chaque marche, les participants reçoivent par mail, tout est envoyé par mail évidemment, reçoivent par mail d'une part la carte IGN de la randonnée, d'autre part un plan précis de l'endroit du rendez-vous, un petit album photo, un petit diaporama, toutes ces photos sont issues d'ailleurs de ceux qui ont été réalisés l'année dernière, un petit album photo de ce que vous allez voir durant cette randonnée, et un petit commentaire quand nous trouvons quelques idées pour vous dire un petit peu de quelques points historiques ou quelques points extraits des contes et légendes régionaux, etc., de la région que nous allons traverser. Les rendez-vous sont fixés au point de départ de la randonnée, en général à 13h30. 13h30, c'est le départ de la marche, c'est-à-dire qu'il est bon d'arriver 5 à 10 minutes avant pour s'équiper, mettre ses chaussures. Et beaucoup de marcheurs se rendent au point de rendez-vous avec leur véhicule personnel. Je mouille mon doigt, merci. Voilà. Beaucoup d'autres se regroupent en covoiturage, soit parce qu'ils se connaissent de longue date et qu'ils sont amis et qu'ils ont l'habitude de voyager ensemble, ou autrement, un certain nombre de gens se regroupent à la maison des syndicats pour covoiturer ou être covoituré. Dans ces cas-là, compte tenu des distances moyennes que nous avons à parcourir pour aller au point de rendez-vous, oui. Il faut prévoir de partir à 13h de la maison des syndicats, c'est-à-dire d'être 5-10 minutes avant pour organiser le covoiturage. De toute façon, pour chaque randonnée, les horaires et les points sont indiqués et renouvelés parce que il est évident que selon la proximité de Châlons, nous pourrons être amenés à changer de quelques minutes l'heure de rendez-vous. Et également, nous pouvons être amenés, si la randonnée est un tout petit peu trop longue par rapport aux horaires d'hiver et à la nuit qui vient, à partir un petit peu plus tôt que d'habitude. Voilà, je crois que j'ai terminé.
Eh bien, merci.
Merci.
Donc, je rappelle une dernière fois, mais ça, le site internet. Donc, groupes et ateliers, c'est ici que ça se passe. Et vous avez la liste de tous les groupes, vous cliquez ici pour avoir le détail de chacune des activités, les prix, les horaires, les salles, etc., etc. Voilà. Et puis je rappelle également que le site possède ce petit encart rouge qui permet de donner les alertes sur les modifications du programme de conférences, des horaires, des conférenciers, des ateliers, tout ce qui peut arriver d'imprévu et pour lequel on n'a pas eu le temps de donner une information à l'ensemble de nos adhérents. Et bien sûr, cette information, vous la voyez non seulement sur votre machine à la maison, mais vous pouvez la voir également sur votre téléphone portable si vous avez ce qu'on appelle un smartphone. Donc vous mettez le raccourci qui va bien sur le site de l'UTB et ça apparaît directement sur la première page. Comme ça, prenez tout doucement le réflexe de regarder tout ça avant de venir qui à la maison des syndicats, qui à telle ou telle activité, de telle manière à être informé d'un changement de dernière minute. Voilà. Donc, si vous avez des questions complémentaires, on a pratiquement tenu l'horaire. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des hésitations à aller dans tel ou tel atelier, à revenir à l'accueil à l'UTB pour en discuter, à demander un contact avec tel ou tel intervenant pour lui demander des précisions, de telle manière à confirmer votre participation et votre inscription, payante ou gratuite. Voilà. Y a-t-il des questions ? Je peux donc vous libérer. Je vous remercie de votre attention. Et puis, nous passerons une bonne année avec le programme de l'UTB. Merci beaucoup. Galet. Et attendez, je vais arrêter ça. Et.